Dans le cadre d'une initiative lancée par l'Université du Temps Libre de Bayonne, Claude Labat, ancien enseignant et animateur de l'association Laoboru, était au Musée Basque de Bayonne pour y présenter une conférence intitulée « Les procès en sorcellerie de 1609 en labour ». Plus de 400 ans après les faits, Claude Labat se propose de démêler l'histoire et la légende en vous replongeant dans la vie de cette province du Pays Basque au XVIIe siècle, à travers une description détaillée de son contexte politique, économique et culturel. Vous allez entendre la seconde et dernière partie de cette intervention de Claude Labat, enregistrée le 8 novembre 2013 au Musée Basque de Bayonne.
Le labour est peu marqué par les guerres de religion, contrairement à la Basse Navarre et à la Soule, peu marqué. Mais le roi d'Espagne va trouver un prétexte pour essayer de récupérer des territoires qui appartiennent à l'évêché de Bayonne. Il dit que les idées de la réforme vont rentrer plus facilement dans la péninsule si ces parcelles de territoire continuent d'appartenir à l'évêché. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, grosso modo, les limites de l'évêché de Bayonne à cette époque-là. Vous voyez que la région de Saint-Sébastien fait partie de l'évêché de Bayonne, tout le Bastan, une partie du territoire de Roncevaux également. En revanche, la Soule et une partie de la Basse Navarre, la Basse Navarre appartient au diocèse de Dax, la Soule, je pense que c'est Oloron, il me semble. Et lorsque on regarde cette carte-là, on comprend donc de quel territoire parle le roi d'Espagne. Il veut récupérer, il veut qu'on rétrocède donc ces territoires-là. Quelques jalons. En 1512, 1522, le roi d'Espagne finit la conquête de la Navarre. En 1566, il va demander au pape le démembrement du diocèse de Bayonne. Et il va l'obtenir. Puis, Henri IV est couronné roi de France et de Navarre. Et très vite, il va falloir s'occuper de la frontière. La frontière est déjà décidée, plus ou moins, et on va la fixer définitivement de cette manière-là. Quand je dis la fixer, c'est la fixer sur le papier. Il n'y aura pas de borne posée à cette époque-là. La frontière est tracée. Et vous voyez qu'elle est sensiblement identique à celle que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant à montrer également, c'est que la chasse au labour, la chasse aux sorcières au labour, se déroule. Et aussitôt après, la chasse aux sorcières en Basse Navarre. En Navarre, je veux dire. Donc vous voyez qu'on a deux conflits identiques à proximité. On ne peut pas parler de frontières à cet endroit-là, entre Sougaramourdi et le labour. Vous voyez aujourd'hui comment c'est. Ce sont des collines très basses. Le passage est très aisé. Donc, on comprend qu'il y ait eu contact, soit pour fuir le labour, soit pour fuir le Navarre. Dans les deux sens, il peut y avoir donc, des échanges de population. Et c'est ce qui s'est passé. Si la réforme n'a pas beaucoup marqué le labour, la contre-réforme l'a énormément marqué, comme toutes les régions de France et d'Europe. Les églises basques vont adopter l'art baroque. Vous connaissez ces décorations donc, derrière les autels aujourd'hui, donc ces décorations à profusion, pour faire l'inverse de ce que prônent les réformés, les protestants, qui veulent des lieux de culte plus sobres. L'église catholique va étaler ses ors et ses images à profusion. Et les Basques vont l'adopter pleinement. C'est l'époque également où, après le Concile de Trente, on décide de former les prêtres, davantage en tout cas. Le haut clergé était instruit, très nettement. Le bas clergé un peu moins, était parfois même misérable. Et les prêtres sont formés, on institue les séminaires à cette époque-là pour pouvoir les former correctement. Et en particulier, j'illustre cette formation par un vitrail de la cathédrale de Bayonne, « La chute des mauvais anges ». Ça fait référence aussi au livre de Pierre de Lantre, « Tableau de l'inconstance, des mauvais anges et des démons ». Donc là, c'est la théologie du mal, si vous voulez, qui se développe énormément à cette époque-là. Un petit détail au passage, dans l'œil de ce démon, lors des restaurations des vitraux de la cathédrale il y a quelques années, on a découvert avec surprise un petit dessin extraordinaire en grisaille dans l'œil du démon. On a trouvé une tête d'ange. Allez savoir pourquoi il y a un ange dans un œil de démon. C'est très simple. C'était la signature du maître verrier à l'époque. ce n'est rien de théologique. C'est également l'époque où on décide de former la population. On va donc imprimer des catéchismes. C'est un détail qui a son importance parce que, à partir du moment où on veut former la population, il faut s'adresser correctement à la population, il faut donc utiliser la langue de la population. Et partout en Europe, on imprime dans chaque région les catéchismes en langue vernaculaire, la langue du pays. Ça veut dire donc qu'on va former les gens dans leur langue. Et c'est ainsi que l'on va figer pour la première fois les langues de ces régions-là. Et le basque a une orthographe qui est plus ou moins figée depuis cette époque-là. Elle a évolué par la suite, très récemment, mais elle a été figée grâce à ces catéchismes-là, entre autres. À côté de cette religion officielle, il y a ce qu'on peut appeler une religion domestique. Une religion, vous allez le voir, qui est surtout entre les mains des femmes. Une religion basée sur des pratiques magiques. Alors, quand on dit pratique magique, il ne faut pas imaginer n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Le New Age est passé par là et nous a farci le cerveau avec des tas d'énormités. Pratique magique, c'est très simple. On accomplit des gestes où on dit des paroles que l'on pense efficaces. On pense que poser une bougie allumée par temps d'orage peut faire fuir l'orage. Voilà une pratique magique. On pense qu'en se frottant la peau avec un linge humidifié dans une source miraculeuse, on va guérir d'une maladie de peau. C'est tout, ce n'est que ça la magie. Et ces pratiques magiques, par exemple ici, pour des pêcheurs, photographie prise sur une crampotte du port des pêcheurs à Biarritz il y a très peu de temps, une croix en immortelle que l'on tresse le jour du solstice d'été, la nuit de la Saint-Jean, on cueille des immortelles sur la falaise, et la bourdelle descend sur la côte pour des bains rituels, et tresse des croix pour chasser le mauvais œil, donc pour faire fuir les sorcières. Les femmes qui accomplissent les rites funéraires sont accompagnées dans chaque village par une femme qui a été élue par la communauté. L'évêque entérine ou non l'élection, mais c'est souvent le cas, il entérine. Et cette femme, qu'on appelle une benoîte, aide les femmes dans les pratiques funéraires. C'est elle qui entretient également l'église, mais ce n'est pas la bonne du curé. Elle a un rôle noble, elle a un rôle important. Dans les archives, on a trouvé des choses extraordinaires. Une benoîte, par exemple, qui, le jour du baptême d'un enfant à Arbonne, reçoit la famille et l'enfant après le baptême dans sa benoîterie et débaptise l'enfant pour lui imposer un autre prénom. La dernière benoîte qui a existé en Pays Basque est morte en 1992. Lorsqu'on faisait des travaux dans le cimetière pour sauver les stèles, on l'a vue pratiquer un rite magique extraordinaire, l'orage menacé, et elle est rentrée dans l'église, elle a pris deux feuilles de laurier, elle a fait couler dessus des gouttes de cire avec un cierge béni pour faire fuir l'orage. Et quand on lui a demandé, mais où avez-vous fait partir l'orage? Eh bien, dans le village d'à côté, à Lécumberri. Et pourquoi Lécumberri? Parce que là-bas, ce sont des mauvais chrétiens, nous a-t-elle dit. Donc, si on pense comme ça en 1992, imaginez en 1609. Vous voyez. L'importance des rites funéraires, bon, j'insiste pas, c'est l'époque où apparaissent les stèles d'Isfouidal. Vous voyez, celle-ci est pratiquement contemporaine des procès de sorcellerie. À Arbonne, 1606. Donc vous avez là un panorama de la religion domestique. Et Pierre Delancre va beaucoup insister à plusieurs reprises sur ces rites et ces pratiques qu'accomplissent les femmes et les hommes aussi parfois pour accomplir donc des rites domestiques, si vous voulez, des rites de bénédiction et en particulier les processions. Il va également s'intéresser de très près à la culture de ce pays. C'est un fin lettré, c'est un musicien, il ne comprend pas le basque, mais il s'intéresse à ce qu'il voit. En tout cas, il va très vite comprendre que la musique, la danse et la fête font vraiment partie de ce pays. Et il va décrire de nombreuses danses, et quand il cherche à décrire les danses sataniques, quand il cherche à faire dire exactement aux accusés les danses qu'ils ont dansées autour du diable, les accusés racontent des danses où on se tient par la main en cercle, mais en se tournant le dos, et on recule l'un vers l'autre pour se toucher les fesses à un moment donné et repartir vers l'avant. Les danses à l'envers, les danses circulaires, qui sont des danses typiquement carnavalesques. Donc il sait qu'en leur faisant raconter leur carnaval, il n'est pas loin de ce que racontent les textes sur les sabbats. Les danses en cercle, il suffit de dire que le diable est au milieu du cercle, et ça y est, c'est complet. Il connaît également l'ancienne mythologie des Basques. Faire raconter au petit basque, parce qu'il fait surtout parler des enfants, faire raconter au petit basque que le bouc est présent lors des rassemblements, ça ne présente aucun problème. Dans les veillées des maisons, le soir, on leur raconte des histoires issues de la mythologie, des légendes, où on parle du bouc. Mais le bouc est également un animal connu dans toutes les autres régions d'Europe, mais ici particulièrement. C'est le protecteur des troupeaux, le bouc noir en particulier. Il en reste d'ailleurs un avatar aujourd'hui dans les troupeaux. La brebis noire que vous avez dans tous les troupeaux de brebis blanches, c'est ce qui reste de cette coutume-là. Aujourd'hui, on a perdu le sens, bien entendu. On dit que c'est pour porter bonheur. Bon, on n'est pas très loin du sens, si vous voulez, mais voilà. Et, je vous disais, toute cette culture populaire est transmise lors d'un moment privilégié auquel Pierre de Lancre va porter beaucoup d'attention. Il n'est pas le seul, l'Église et le pouvoir civil, dans toutes les Pyrénées en particulier, essayent d'interdire la pratique de la veillée. Tous les soirs, les femmes, souvent seules puisque les hommes sont en mer, se rassemblent sur l'une d'entre elles, à tour de rôle, pour la veillée. La veillée, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où on mange, mais très peu, frugalement. On travaille surtout. On file la laine, on tisse le lin, s'il le faut. On travaille. Ou bien on dépouille le maïs. Et lors de la veillée, les anciens racontent aux enfants des légendes. On leur apprend des chants. Toute la tradition orale est véhiculée ainsi. C'est comme ça qu'on a recueilli des chants de 5 siècles d'âge, intacts, avec 17 couplets. En dessous, par exemple, la chanson de Berterec a été transmise intacte, jusqu'à être figée par écrit, simplement, en 1970. Donc vous voyez qu'on a une culture très forte quand même là. Pierre de Lancre le voit. La veillée va servir à Pierre de Lancre pour décrire ce qui se passe au sabbat. Parce qu'il sait que si l'Église et les pouvoirs civils veulent interdire la veillée, c'est qu'à certains moments, la veillée peut servir d'exutoire dans cette société misérable et puis sous la contrainte permanente. La veillée sert d'exutoire. On autorise par exemple, dans certains cas, les adolescents, à certaines époques de l'année, peuvent faire la veillée entre eux au grenier. Alors imaginez bien, les ados, en haut, garçons et filles mélangés, la veillée doit être assez particulière quand même. Et Pierre de Lancre le sait. Donc tous les excès qu'il peut y avoir, excès de son point de vue, vont lui servir pour argumenter. Les Basques sont inconstants au point de vivre dans la débauche lors de rencontres entre eux, comme ça, nocturnes. L'autre point pour décrire, ce sera mon dernier point pour décrire le labour. C'est peut-être le plus important. C'est un pays qui vit tous les jours avec la peur au ventre. La peur des intempéries, pour des marins c'est quand même important, les catastrophes naturelles, les périls en mer, les guerres. Et pour s'en prémunir, je vous l'ai dit, on fixe donc ce chardon, ou ces immortels, sur la porte de la maison, pour faire fuir les êtres de la nuit. On va conjurer les épidémies ou les épizooties, les épidémies des animaux, on va les faire fuir en faisant des signes magiques sur les portes de grange. Ici, c'est une croix que j'ai vue moi-même tracée il y a 40 ans, en Pays Basque. C'était plus pour des raisons, bien entendu, de mauvais œil, mais c'était pour porter bonheur au troupeau. On fait une grande croix blanche, après avoir badigeonné la grange, l'étable, à la chaux. Donc, des rites comme ça étaient très fréquents. On a peur, donc, parce que les troupeaux, c'est la seule richesse de ce peuple de bergers. Et on a peur surtout des étrangers. On a peur des réfugiés, des exclus. Deux catégories d'étrangers viennent d'arriver, je vous l'ai dit, les Juifs, donc chassés du Portugal, qui sont arrivés, et vous connaissez dans l'histoire, leur installation par la suite à Bayonne notamment, je n'insiste pas là-dessus. Une autre catégorie d'étrangers, j'en ai parlé très brièvement, ce sont les Bohémiens. Ils arrivent de plusieurs pays étrangers, mais en particulier d'Espagne, ils s'implantent du côté de Cibourg également, et très vite, ils vont être, contrairement à ce qu'on dit, ils vont être très vite assimilés. Parce que d'abord, beaucoup de textes le disent, les femmes des Bohémiens sont très belles, elles trouvent à se marier très vite avec les Basques. Et ça va donner une catégorie de personnes qui portent toujours le nom aujourd'hui de cache-carottes. Les cache-carottes. Donc ces femmes-là, qui étaient réputées pour aller vendre le poisson en ville, en courant, de Saint-Jean-de-Luz à Bayonne par exemple, les cache-carottes, mais on a beaucoup exagéré aussi ce thème-là. Les cache-carottes, donc, bohémiennes, elles sont suspectées en permanence, leur mari également, leur compagnon également, les bohémiennes surtout, parce qu'elles lisent l'avenir dans la mer, moyennant une petite piécette. Or, l'avenir n'appartient qu'à Dieu, donc ce sont des mécréantes. Elles sont donc pourchassées par l'Église, en particulier, et très vite, on les soupçonne de sorcellerie, mais c'est une manière de dire qu'on les soupçonne de plein d'autres choses, en particulier d'être voleurs, de s'intéresser de trop près aux poules et aux brebis qu'il y a dans les champs. Les voleurs de poules, c'est bien connu. De nombreux cas de vol sont signalés, et on accuse toujours les bohémiens. Donc, c'est quelque chose qui s'est pratiqué ailleurs également, mais ici qui a certainement contribué au déclenchement des procès du labour. On accuse à un moment donné les bohémiens non seulement de voler le bétail, mais surtout de porter tort au bétail en déclenchant des épizooties, des maladies, qui ruinent les troupeaux. Devant cet état du labour, bien entendu, la population va chercher en permanence à conjurer ses malheurs en désignant des boucs émissaires, réflexe universel. Aujourd'hui encore, on trouve partout des boucs émissaires que la population désigne pour conjurer ses malheurs. Je ne veux pas faire référence à l'actualité, mais vous avez certainement en tête des faits qui montrent qu'aujourd'hui encore, ça persiste. Alors, il est temps maintenant de voir, suite à cet état du labour, comment se sont déroulés les procès. Alors, j'ai longtemps hésité à vous décrire dans le détail les procès. Je vais le faire d'une certaine manière beaucoup plus souple. Je vais vous présenter ça, d'abord à partir de la phrase de Pierre de Lancre lui-même. Vous allez assister aux belles formes de la justice en France. Et vous jugerez à la fin si ce sont vraiment de belles formes. Je vais vous présenter ça comme un théâtre, avec un drame en trois actes. Et je vais même compliquer un petit peu, je vais faire comme pour les pastorales de Soule, je vais mettre tous les personnages d'un coup sur la scène. Et par un jeu de flèches, je vais essayer, je ne vois pas pourquoi il manque le bas. Je vais essayer de vous indiquer ce qui s'est passé. En bas, il y a écrit tout simplement « Population du labour ». Tout commence en 1605, 4 ans avant la venue du Père de Lancre, par des affaires inextricables entre Tristan d'Urtubie, ou plus exactement le clan de Tristan d'Urtubie, et Saint-Jean-de-Luz, plus exactement le clan municipal de Saint-Jean-de-Luz. On va dire, pour faire simple, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz. Ces affaires-là, très probablement, concernent des questions foncières. Les nobles n'ont pas voix au Bessard, mais ce sont eux aussi des propriétaires terriens, et qui sont souvent des propriétaires terriens très riches, qui possèdent beaucoup de terres. Les autres terres sont au maître de maison. Mais Tristan d'Urtubie, qui est un fermier, si je puis dire, s'intéresse vraiment à la question et n'a de cesse que d'enrichir son patrimoine. Il est également sieur d'Alsate, en Navarre, pas loin de Sougaramourdi. Et il a des terres là-bas également, et pour agrandir son territoire, il est prêt à tout. Mais voilà, pour une question foncière, il rentre en conflit avec le clan municipal de Saint-Jean-de-Luz. Alors au départ, ce sont des invectives, tout simplement, des réunions houleuses, et puis petit à petit, quand on se croise dans les rues ou dans les chemins, ce sont des insultes. Puis on en vient aux mains, on se bat, et comme ce n'est pas Tristan d'Urtubie lui-même qui se déplace, c'est son clan, les gens s'en donnent à cœur joie, une bonne bagarre de temps en temps, il n'y a rien de mieux. Quoi. Et les affaires s'enveniment jusqu'au jour où Saint-Jean-de-Luz, pour en finir, décide de porter l'accusation suprême contre Tristan d'Urtubie et l'accuse du crime de sorcellerie. C'est très fort, c'est une accusation majeure, et pour porter l'accusation, ils saisissent le Parlement de Bordeaux. Le Parlement de Bordeaux traîne un peu, mais va déclencher une commission d'enquête, il envoie une commission d'enquête qui arrive à Bayonne, s'informe un petit peu sur la teneur de l'affaire, et à Bayonne, la commission d'enquête apprend que ce sont des affaires concernant du foncier, une querelle de voisinage en fait. Et la commission d'enquête, très courageuse, remonte à Bordeaux sans résoudre les affaires. Résultat, les affaires reprennent de plus belle, et vraiment de plus belle, avec de nombreuses échauffourées, jusqu'au jour où une fille du clan d'Urtubie est violentée dans un bois de Saint-Jean-de-Luz. Alors là, d'Urtubie va agir tout de suite, de la même manière que le clan de Saint-Jean-de-Luz. Il va accuser le clan de Saint-Jean-de-Luz de sorcellerie. Mais lui ne va pas saisir le Parlement de Bordeaux, il va en référer au roi directement. Il compte en tout cas en référer au roi. Entre-temps, la population du labour, c'est-à-dire les maîtres de maison, se plaignent auprès du Bilsart par leurs représentants que les troupeaux sont, sous le mauvais œil, jetés par les sorciers. Les troupeaux sont décimés par la maladie. Il faut en finir avec ces bohémiens qui jettent le mauvais œil. Il faut des procès de sorcellerie. Ce sont des sorciers. Il faut les réduire à l'impuissance. Donc, il demande au Bilsar de dépêcher le bailli, Jean Propen Damou, de l'envoyer donc à Paris, demander au roi une commission d'enquête en sorcellerie. Et voilà comment deux nobles du Labour, qui se connaissent bien, proches voisins, Saint-Pé et Urune, sont chargés de la même mission, en fait, demander au roi une enquête en sorcellerie en pays de Labour. Le roi ne peut pas décider ça tout de suite comme ça. Ce n'est que le premier acte de notre drame. Le second acte se passe très loin d'ici. Je vous ai dit, les Basques sont pêcheurs, Terre-Neuve, mais ils font aussi la traite des peaux. Ce fait dont je vais vous parler était complètement inconnu il y a encore 20 ans ici en Pays Basque. Ce sont les Québécois, Nelson Cazeil en particulier, qui a travaillé là-dessus, je crois, qui racontent qu'ils ont trouvé donc des archives permettant de dire à la part qu'avaient les Basques dans la traite des peaux. Et en particulier, un conflit très particulier, voyant le commerce juteux que représente ce commerce des peaux, beaucoup de personnes sont tentées de se l'approprier. Et en particulier, un confident d'Henri IV, Dugadomont, un Saint-Onger, qui demande au roi, c'est un familier du roi, demande que le roi lui obtienne le monopole du commerce des peaux au Québec. Le roi signe la lettre patente, mais chaque fois que Dugadomont va au Québec, plusieurs années avant le procès de sorcellerie, il ne peut pas obtenir gain de cause, les Indiens ne veulent pas travailler avec lui. Savent-il que la France a des visées sur ce qui va devenir le Québec plus tard? C'est possible. En tout cas, les Indiens ne veulent pas. Ils continuent de travailler avec les Basques. Et Dugadomont se plaint à tel point que Henri IV, dans un premier temps, lui enlève le monopole du commerce des peaux. Et Dugadomont insiste, retourne plusieurs fois au Québec et essaie de persuader le roi que ce monopole du commerce des peaux qu'il peut avoir à nouveau permettrait au roi de s'implanter davantage dans la Nouvelle-France. Donc Henri IV lui redonne le monopole du commerce des peaux et Dugadomont retourne au Québec l'année avant les procès, 1608, retourne avec Champlain. Oui, Champlain. Et il retourne au Québec. Les Basques montent un complot pour les éliminer, les deux. Le complot échoue lamentablement. Dugadomont revient à Paris et dit au roi « Je n'ai pu ramener qu'un bateau avec des peaux. Mais en arrivant en vue de La Rochelle, les pirates basques ont saisi toute la cargaison. » Donc le conflit dépasse largement le Québec également. Donc c'est cette situation-là, peut-être qu'elle serait un des facteurs déclenchant des procès de sorcellerie. Ce qui est vrai, c'est que Dugadomont, donc, est un intime du roi, mais il est appuyé également par le chancelier du royaume, Brûlart de Seyeri, qui est aussi le grand chantre du pouvoir absolu. Donc quelqu'un d'important pour Henri IV. C'est Brûlart de Seyeri qui va souffler à l'oreille du roi le nom de Pierre de Lancre. Il connaît quelqu'un qui peut s'occuper de ces procès de sorcellerie. Un autre personnage va influer à la cour, c'est l'aumônier même du roi, le père Coton. Le père Coton, lui, veut envoyer des jésuites au Québec. Les jésuites qui sont, vous le savez peut-être, pas très en odeur de sainteté ici en Labour, en général. Pourtant, ils ont été fondés par des basques de l'autre côté, mais en Labour, les jésuites n'ont jamais pu vraiment s'implanter. En tout cas, le père Coton insiste de son côté. Ce qui fait qu'Henri IV va très vite, donc, nommer Pierre de Lancre. Mais la décision doit passer par des voies bien connues. Il faut envoyer des lettres patentes au Parlement de Bordeaux. Donc, le roi envoie des lettres patentes au Parlement de Bordeaux, qui est réputé pour être le plus revêche du royaume de France. Le plus difficile. Le roi est souvent en conflit avec ses parlements. Celui de Bordeaux lui cause beaucoup de soucis. Le Parlement de Bordeaux a un motif de plus de mécontentement, c'est que les lettres patentes donnent les pleins pouvoirs à Pierre de Lancre. Un de leurs conseillers à Bordeaux les pleins pouvoirs, c'est-à-dire y compris le pouvoir de peine de mort. Mais surtout, il y a une clause qui spécifie que Pierre de Lancre ne répondra de ses faits et gestes que devant le roi, pas devant le Parlement. Alors ça n'est trop, le Parlement de Bordeaux, et il peut le faire, casse la décision royale. Mais ils savent très bien pourtant que le roi a une autre carte à jouer, ce sont les lettres de Jussion, qui là imposent la décision. Et le roi va donc, le Parlement de Bordeaux est obligé d'obéir au roi, et c'est sans doute là que l'on parle également de la désignation de Jean d'Espagné, président du Parlement de Bordeaux, comme chef de la mission en labour. Alors on sait aujourd'hui que Jean d'Espagné n'a pas assisté à tous les procès, loin de là, mais il a signé tous les papiers, co-signé tous les papiers avec Pierre de Lancre. Donc Jean d'Espagné est aussi responsable de ces procès. Jean d'Espagné s'est surtout occupé de la reconstruction du fort de Sokoa, mais également des conflits de pêcheurs sur le Bidassois, la zone de, avec des traités de bonne correspondance avec les marins de l'autre côté. C'était le deuxième acte. Le troisième acte, bien entendu, vous devinez, ce sont les procès eux-mêmes. Alors, on a beaucoup dit de choses là, sur les procès. En particulier, on a beaucoup insisté sur les horreurs qui se sont accomplies durant ces procès, la torture, l'ignominie de ce personnage-là. Il y a peu de choses comme témoignage. Pierre de Lancre, bien sûr, n'insiste pas beaucoup sur les tortures s'il en a appliqué. Mais ce qui transparaît dans ses écrits, c'est qu'il a appliqué une torture qui est bien plus efficace, semble-t-il, que les tortures physiques. C'est la torture morale. Déjà, il faut questionner les gens, mais la langue basque est un obstacle. Donc il est obligé de passer par des interprètes. Et on sait que dans toutes les régions d'Europe où s'est produit le même fait, ça prête à des erreurs monumentales, bien entendu, l'incompréhension, à tel point qu'on met au point parfois des techniques où, pour éviter d'éterniser les débats, les échanges, on demande aux accusés de répondre uniquement par des signes de tête, ce qui augmente encore les erreurs. Donc ce sont des choses qui nous dépassent complètement aujourd'hui, mais c'est des manières de procéder, si je puis dire, qui sont vraiment surprenantes. En tout cas, les procès se déroulent rondement. Pierre de Lancre arrive la fin juin 1609. Il est reçu à bras ouverts à Bayonne par le corps de ville et par Mgr Deschaux, qui est évêque de Bayonne. Et il commence très tôt, quelques jours après avoir parcouru la côte, il commence très tôt son premier procès. Et on sait que chaque fois qu'il se déplace pour installer son tribunal dans un village, le bruit court bien à l'avance, beaucoup de gens fuient à son arrivée et se réfugient en Navarre. Pourtant, ils savent qu'en Navarre aussi se prépare une chasse aux sorcières. Donc, il se réfugie là-bas. Il se réfugie aussi dans les Landes, il se réfugie ailleurs. On trouve également dans certains livres qu'une partie de la population déjà préfère émigrer en Amérique. Je n'ai pas pu le vérifier. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Pierre de Lancre mène ses procès. A-t-il pratiqué donc vraiment la torture? On n'en sait trop rien, mais semble-t-il qu'il y ait eu au moins le fouet d'utiliser. Le reste, ce ne sont que des suppositions. Torture morale, certes, oui. En tout cas, Pierre de Lancre mène ses affaires et les mène très loin. Puisqu'à un moment donné, il va même s'attaquer au clergé. Pierre de Lancre va... Bon, la torture, je passe très rapidement. Il s'intéresse au curé. Il va même en emprisonner plusieurs dans une prison à Bayonne. C'est Bertrand Deschaux qui va monter au créneau, si je puis dire, et qui va lui-même, avec d'autres prêtres, monter une espèce d'expédition d'évasion de ces prisonniers-là. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Pierre de Lancre va finir par condamner au bûcher et à exécuter deux prêtres à Saint-Jean-de-Luz. Et alors là, Mgr Deschaux monte à Paris, c'est aussi un ami du roi, il va donc essayer de demander l'arrêt des procès. C'est ce qu'on raconte en général, c'est ce qu'on trouve en général dans la littérature. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Ce qui est vrai, c'est que à un moment donné, les pêcheurs reviennent. Alors, il faut démolir là aussi quelques mythes. On a souvent dit, et on le dit encore, que les pêcheurs sont arrivés parce qu'ils ont été informés de ce qui se passait. Nous sommes au mois de novembre 1609, mi-novembre, les pêcheurs reviennent. Ils viennent Tout simplement parce que c'est la période d'hivernage. Ils ne peuvent pas rester dans les eaux du Saint-Laurent puisqu'elles sont prises par les glaces. Donc ils reviennent parce que c'est la fin de la campagne. Tout simplement. Mais on sait aussi, maintenant de façon sûre, que c'est aussi la période qui, dans les lettres patentes, est indiquée pour terminer les procès. Donc ils terminent les procès également parce que c'est le moment de les terminer, sur ordre du roi. Mais ça se conjugue donc avec le retour des pêcheurs et la rumeur donc dit, est-ce que c'est réel, on n'en sait trop rien, que lors d'une affaire à Saint-Jean-de-Luz, les pêcheurs se révoltent, rentrent dans la chambre de Pierre de l'Ancre et l'obligent à quitter le labour. Illico. Voilà ce que l'on dit. Et on oublie toujours d'ajouter qu'à ce moment-là, Pierre de l'Ancre quitte effectivement très rapidement le labour, mais il amène avec lui 200 femmes à Bordeaux, dans des conditions déplorables. Donc, Henri IV arrête les procès, Pierre de l'Ancre ne sévit plus, il est temps de faire le bilan de cette affaire-là. Alors, le bilan, d'abord le nombre de victimes. Dans son livre, si on compte les victimes dont il parle, il y en aurait eu 14. Habituellement, en Pays Basque, on dit qu'il y en a eu entre 700 et 1000. Bien entendu, on prend le pied inverse. 700 ou 1000. Jamais on n'a pu établir le nombre exact de victimes. Je me fonde sur les travaux de Nicole-Jacques Chacun, qui, après une analyse fine du travail de Delancre, estime qu'il y aurait eu entre 50 et 100 personnes, ce qui est déjà beaucoup. 50 et 100 personnes. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes reprennent cette estimation-là. 700 personnes, ce serait par contre le nombre de gens incriminés lors des procès. Ça ne veut pas dire condamnés. Alors, voilà pour le nombre de victimes. Parlons rapidement des 200 personnes que Delancre amène avec lui. Il va les enfermer dans des prisons, il veut les enfermer dans des prisons à Bordeaux. Les prisons sont pleines. On va donc être obligé de réouvrir pour l'occasion le fort du Hain, l'actuel palais de justice à Bordeaux. Le fort du Hain va être réouvert pour abriter ces femmes-là, qui vont être incarcérées dans des conditions épouvantables. Une toute petite poignée va être jugée très vite, toute petite poignée. Les autres vont croupir dans le cachot d'une manière effroyable. Certaines vont mourir de misère, de faim, de maladie dans le cachot. Et toutes les autres vont être libérées 10 ans après, sans jugement. Voilà ce qu'il faut dire. Et on oublie toujours de le raconter, ça. C'est l'autre facette des procès de sorcellerie qui est aussi triste que la précédente. Et puis, il y a donc d'autres choses dont il faudrait parler comme bilan. On pourrait croire que les Basques auraient compris la leçon et que désigner des boucs émissaires, ça peut être vraiment une triste chose. Eh bien non, pas du tout. La population ne réagit pas pour autant. On continue sur la lancée. 10 ans après les procès, c'est la population elle-même de pêcheurs à Saint-Jean-de-Luz, voyant que le mauvais temps persiste au mois de mars, alors que les bateaux doivent partir vers Terre-Neuve. La population accuse certaines personnes de la ville de porter le mauvais œil sur l'expédition. Tous les prétextes sont bons pour accuser. Puis on va accuser en particulier ces gens-là qui se disent convertis au christianisme récemment, les juifs. Mais ce sont peut-être une façade. Ce sont peut-être des gens qui font exprès d'être convertis. La preuve, un jour, on surprend, paraît-il, à la messe, une juive convertie cachée l'hostie de la communion dans son mouchoir. Aussitôt, le prêtre interrompt la messe, les gens se saisissent de la personne, Madeleine Fernandez, je crois qu'elle s'appelle, et elle va être mise sur la place publique, enfermée aussitôt dans un tonneau et brûlée vive sur la place sans jugement. C'est le seul cas aussi triste, avéré d'antisémitisme dans des procès de sorcellerie en France à ce moment-là. Triste chose, ici en Pays Basque. Alors, juste un petit encart, si vous voulez, dans mon explication, ce qui s'est passé en France, donc les responsables officiels de l'encre. Moi, je dis, il y a aussi la situation du pays, bien entendu, la misère qui est à la clé de tout ça. Et en parallèle, ce qui se passe en Espagne, de l'autre côté, sous Garamurdi, en Navarre. De nombreux Basques se sont réfugiés en Navarre. Ils ont pu raconter ce qui se passait. Ils l'ont certainement fait. Mais il y a également, on le sait, je vais vous dire comment, après les procès de sorcellerie à Sogaramurdi, lorsque l'Église l'Inquisition pardon, décide d'arrêter les procès de sorcellerie, l'évêque de Pampelune fait à son tour une commission d'enquête dans la province, notamment du côté de Solaire Amourdi, pour en savoir davantage. Que s'est-il passé pour déclencher cette vague de sorcellerie et ses procès? Et il découvre, dans ses enquêtes très fines qu'il a faites, pas tout seul bien sûr, il découvre que de nombreux habitants de Solaire Amourdi se rendaient en labour pendant les procès de Pierre de Lancre pour assister aux exécutions. Il parlait la même langue, donc il pouvait avoir connaissance exactement des sentences et des reproches que l'on faisait à la population, aux condamnés. Donc, ces gens-là, de retour, racontaient les choses. Ces spectateurs-là ont certainement, comment dire, influencé vraiment la population sur ce qui se passait au labour. Mais tout commence lorsqu'une fille qui vivait en labour, mais originaire de Solaire Amourdi, Marie de Chimeldegui, elle était originaire de Solaire Amourdi, et elle a habité pendant 6 ans, je crois, du côté de Saint-Jean-de-Luz. Elle rentre un an avant l'arrivée de Pierre de Lancre, en disant « Voilà ce qui se prépare en labour ». Et elle sait ce qu'on raconte sur les sabbats, elle sait tout ce qui se trame. Ajoutée à ce que vont dire les spectateurs qui ont vu les exécutions, elle fomente une histoire, pour se mettre en valeur, si vous voulez. Elle dit elle-même avoir été entraînée à un sabbat sur les hauteurs de Solaire Amourdi par une femme riche du village. Elle raconte exactement ce que les petites sorcières accusées en Pays Basque ont raconté de la même manière. Vous avez vu au début de mon explication. Donc, Marie de Chimeldegui va déclencher aussitôt une panique terrible dans le village de Solaire Amourdi. Jusque-là, la Navarre réglait souvent les affaires de sorcellerie en communauté. Là, depuis quelque temps, il y a un tribunal qui est imposé, c'est l'Inquisition. L'Inquisition qui était à Calahorra s'est installée récemment à Logroño. Et là, le conseil de l'Inquisition dépêche des inquisiteurs. Normalement, il en faut 3. Il y en a 2 qui sont là, désignés. Il en manque un 3e. On cherche un moment pour commencer les procès en 3e. Et celui qui se présente, c'est un nommé Salazar Ifrias, qui très tôt se passionne pour ce travail-là, mais très tôt se démarque de ses collègues. On condamne. Il y a 300 personnes qui sont suspectées de sorcellerie, et 31 vont être inculpées. Parmi les 31, il y en a 11 qui nient franchement avoir participé à des sabbats. Les autres finissent par avouer, sous la pression. Et Salazar Ifrias s'intéresse beaucoup à ces 11. Il demande à ses collègues de pouvoir recommencer une audition, une enquête, une audition, les faire parler à nouveau. Il dit, s'ils nient, c'est qu'ils disent peut-être vrai. Bien entendu, le conflit entre les inquisiteurs ne fait que débuter. Et très vite, Salazar Ifrias se rend compte que toutes les accusations de sorcellerie ne reposent sur rien. Donc, la procédure va se poursuivre. Lui, il est convaincu, il arrive à sauver ces 11-là, mais il est convaincu que tous sont innocents. Il n'arrive pas à arrêter le cours des procès pour les autres. Il réussit à sauver ces 11-là, mais parmi les autres qui sont inculpés, 11 vont être retenus pour être envoyés au bûcher. Préalablement, ils sont mis dans des prisons, à Logroño, et dans les prisons, beaucoup vont contracter une maladie, ils vont mourir de maladie, le choléra, je crois. Et un certain nombre. Les autres vont survivre et vont donc être condamnés, lors de l'autodafé de Logroño, à mourir sur le bûcher. Et ceux qui sont morts, les 5 qui sont morts en prison, vont être également brûlés sous forme d'effigie, de mannequins de paille, si vous voulez, sur le bûcher également. Donc on tue même l'effigie, si vous voulez, de la personne qui est morte en prison. Vous voyez jusqu'où ça va. Mais vous voyez la différence quand même dans le nombre, mais également, surtout, dans le déroulement des procès, où on se rend compte que peut-être que la sorcellerie ne repose sur rien. Et petit à petit, le conseil de l'Inquisition, le conseil suprême de l'Inquisition, donne raison à Salazar Ifrias et dit « il faut qu'on arrête ». Donc ça ne va pas sans mal, bien entendu. Et là, le conflit entre les trois inquisiteurs atteint son paroxysme, mais il s'incline. La suprême inquisition décide qu'il faut arrêter, on arrête. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de procès de sorcellerie en Espagne. Et quand Delancre, qui est en train de rédiger son livre, 2 ans après les procès à la bourre, Delancre prend cette décision-là, il a cette phrase dès la page de couverture de son livre, sous le titre, la dernière phrase du titre, « La justice du roi est préférable à la justice des prêtres ». Et en 1614, donc, arrêt de l'inquisition. Alors, juste pour le dernier chapitre que je voudrais voir, la méthode de l'encre, la fameuse inconstance, son terme de prédilection. Pour schématiser, je dirais que l'inconstance... Dieu est constance, Satan est inconstance. Dieu est constance. Souvent, le Christ est représenté comme un homme entier, y compris sexué, symétrique, parfait. L'homme parfait. La constance. Excusez-moi, vous avez vu la sirène ? Satan est inconstance. La sirène représente l'inconstance. C'est un être qui est mi-animal, mi-humain. On le trouve dans la mythologie très, très, très souvent. L'inconstance, c'est donc le diable qui pousse l'homme au mal. Et pour Pierre de Lancre, ça prend différentes formes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sa démonstration est implacable. Dans ce pays, tout est inconstance et désordre. Tout ce qui est sur fond jaune, c'est extrait du livre de Pierre de Lancre. La situation du lieu est en partie la cause qu'il y a tant de sorciers. Il faut savoir que c'est un pays de montagne, la lisière de 3 royaumes, France, Navarre, Espagne. Le mélange de 3 langues, français, basque, espagnol. L'enclavure de 2 évêchés. Or, toutes ces diversités donnent à Satan de merveilleuses commodités de faire en ce lieu ses assemblées et sabbats. Les produits qu'il tire de la terre. Mais comment est-ce que ce pays de labour est si infertile? Car s'ils étaient bien à la grâce de Dieu, ce peu qu'ils ont accoutumé de semer serait suffisant pour les garder pour le moins de la faim. C'est un pays de pommes. Elles ne mangent que pommes. Elles, bien sûr. Ne boivent que jus de pomme, qui est occasion qu'elle morde si volontiers à cette pomme de transgression qui fit outrepasser le commandement de Dieu. Juste un petit clin d'œil, les Basques usent du pétom ou nicotiane, en ayant chacun une planche en leur jardin, pour petit qu'il soit, la fumée de laquelle ils prennent pour se décharger le cerveau et se soutenir aucunement contre la faim. Donc il a remarqué le petit carré de tabac qu'il y avait dans toutes les fermes, si vous voulez. Je vous signale au passage que c'est exactement ce que l'on dit aujourd'hui des personnes d'Amérique du Sud qui mâchent de la coca en permanence. Hein ? Les masses très libres des habitants. C'est une côte de mer qui rend les gens rustiques, rudes et mal polissés. Je vous rassure, ça a changé depuis. Desquels l'esprit volage est tout ainsi que la fortune et moyens, attachés à des cordages et banderoles mouvantes comme le vent. C'est sa manière de décrire les bateaux à voile, ça. La mer est un chemin sans chemin. Il s'enfile parfois encore qu'il semble n'être aucunement tracé, beaucoup plus aisément que la terre. Très belle phrase, d'un point de vue littéraire. Ce mélange de grandes filles et jeunes pêcheurs qu'on voit à la côte d'Anglette, en mantille et tout nu au-dessous, se pêle-mêlant dans les ondes, fait que l'amour les tient à la tâche et leur donne autant de désirs qu'elles ont de liberté et de commodité, s'étant mouillées partout, de salé séché dans la chambre d'amour voisine, que Vénus semble avoir planté pour cette seule occasion, tout exprès sur le bord de la mer. Voilà la véritable origine de la chambre d'amour, pour aller se sécher après les bains de mer. Donc vous voyez que les bains de mer sont aussi à la mode à cette époque-là déjà. Les coutumes et les lois de ce pays, bien sûr, il ne va pas les louper. Les plus gueux se font appeler sieurs et dames d'une telle maison, quand ce ne serait qu'un parc à pourceaux. Il est féroce. Les labourdins n'aiment guère leurs femmes et ne les connaissent pas bonnement parce qu'ils ne les pratiquent que la moitié de l'année. Ils sont pêcheurs. Et pour leurs enfants, la liberté qu'ils prennent d'essayer leurs femmes quelques années avant les épouser et les prendre comme à laisser fait qu'ils ne leur touchent guère au cœur. Je vous parlerai des coiffures tout à l'heure. Ah oui, pardon, voilà. Très belle tapisserie qui se trouve au Musée Basque aujourd'hui, avec les différentes coiffes. Ils appellent loupé ces coiffes-là, Pierre de Lancre. Les veuves portent un morion sans crête pour marquer que le mal leur défaut, que le mal leur manque. Le commun des femmes porte certains tourions ou morions indécents et d'une forme si peu séante qu'on dirait plutôt que c'est l'arme de Priap. Et il n'est pas le seul, plusieurs voyageurs l'ont fait également, à décrire les coiffes dites phalliques de cette région, la Gascogne et le nom de la péninsule ibérique également. En labour, les femmes montrent leur derrière tellement que tout l'ornement de leur cotillon plissé est derrière. Et afin qu'il soit vu, elles retroussent leur robe et la mettent sur la tête et se couvrent jusqu'aux yeux. Alors à ce sujet, juste une anecdote, on raconte que dernièrement, il y a quelques années, dans un village du Pays Basque, la plus vieille du village, Cataline, se promenait avec sa robe justement par-dessus sa tête comme ça. Elle croise monsieur le curé qui lui dit « Mais Magdalène, ça ne se fait pas, monsieur le curé. Le chapeau, tu l'as acheté hier, le derrière, il a 80 ans. » Les fêtes, c'est la danse la plus violente, la plus animée, la plus passionnée, et dont les gestes, quoique muets, semblent plus demander avec silence ce que l'homme lubrique désire de la femme. Je dirais donc volontiers et donnerais pour avis aux sorciers et sorcières, et surtout aux jeunes fillettes qui se laissent débaucher et ensorceler à ce vieux bouc de Satan. Ne sautez point, jeunes fillettes, et ne vous agitez, afin que ce malheureux bouc ne court après vous. On dit que jamais femme ni fille ne revint du bal si chaste comme il y était allé. La religion y passe également. La fameuse croix d'Aetz, dans tous les villages, avait ses croix avec des grelots. Ils veulent que la croix fasse un bruit de sonnette en la forme d'une mascarade de village. J'oserais dire un bruit brutal au lieu qu'elle n'en doive faire d'autre que divin. Il est honteux à une femme, la benoîte, de s'enfermer dans une église avec un prêtre. Et face à une infinité d'autres méchancetés, est-ce qu'elle, le pays et l'humeur volage de ce peuple, a tant d'inclination ? Pour les croix, il parle des stèles, puisqu'il n'y avait pas de croix à cette époque-là, dans les cimetières, il n'y avait que des stèles. Les croix sont arrivées à la fin du XVIIe. Pour les croix, il les porte toutes ébranchées, comme il se voit un cimetière infecté par les sorciers, et est-ce qu'elles, les 10 sabbats, ont accoutumé de se tenir ? Il prend peut-être prétexte de ces cabochons-là pour dire que, primitivement, c'était une croix dont on a arraché les bras, ce qui est tout à fait fou. Donc le jugement est implacable. Le pays tout entier est infesté. Lui-même dit, on fait état qu'il y a 30 000 âmes en ce pays de labour, comptant ceux qui sont en voyage sur mer, et que parmi tout ce peuple, il y a bien peu de familles qui ne touchent au sortilège par quelques bouts. Sous-entendu, il y a un sorcier par maison. Donc la sentence sera radicale. Il faut éradiquer cette engeance de sorciers. Et vous savez que, avec l'Inquisition, l'Église a décidé que pour éradiquer les sorciers, il fallait vraiment un remède radical. Il n'y a que le feu, parce que lui seul peut empêcher les sorciers de ressusciter au dernier jour. Donc il reste quand même quelques grandes interrogations. Quelles ont été les personnes visées par les procès ? François Borde, à propos des procès, parle d'un rituel sacrificiel par lequel la société chrétienne exorcise le mal, ou plutôt le mal-être qu'elle porte en elle. C'est très intéressant comme remarque, ça résume bien les choses. Les femmes ont d'abord été inquiétées. Alors on dit que le mot « shorgin » viendrait de « shortuegin » qui donne naissance. C'est vrai que le fait de donner naissance a toujours intrigué les hommes pendant longtemps. Aujourd'hui, on pense que le mot « shorgin » vient plutôt d'un très vieux mot basque qui signifie « bruyère ». Exactement comme le mot « brouche » en Languedoc, en Gascogne, je ne me rappelle plus exactement quel est le mot brouche qui désigne la sorcière, c'est la bruyère. Donc c'était probablement le lieu de l'aquelarre qui a décidé du nom, de l'aquelarre supposé. Les étrangers, les marginaux, je vous en ai parlé, les bohémiens et les juifs, 10 ans après. Ceux dont on veut la perte pour des raisons politiques, pour des raisons de rang social, ou pour des mœurs non conformes à la norme. Et puis ceux qui entravent également le pouvoir du roi, notamment cette histoire de commerce, qui serait à creuser. Et moi j'espère qu'un jour il y aura une étude poussée sur cette affaire-là, qui permette d'en savoir davantage. Alors, l'autre question très importante, pourquoi autant de jeunes dans ces procès ? On sait que les enfants et les adolescents furent les principaux accusateurs et témoins des procès de 1609. Pierre de Lancre demande des témoignages aux enfants. C'est eux qui vont accuser, souvent des gens plus âgés qu'eux. Dans les procès de 1609, on compte 50% de femmes, 29% d'hommes et 21% d'enfants ou d'adolescents de moins de 17 ans. c'est quand même très important. La sorcellerie des jeunes serait l'expression fantasmée d'une mutation sociale et psychologique. C'est François Borde qui parle. On ne peut s'étonner que dans la situation trouble du labour à cette époque, la révolte contre le père et la mère ait pu prendre comme expression l'accusation de sorcellerie. De plus, les aveux laissent entrevoir des faits qui ont pu frapper l'inconscient des enfants. La promiscuité des chambres communes, qui ont permis peut-être aux enfants soit d'être témoins d'accouchement, soit d'être témoins de violences, violences sexuelles ou autres, qui auraient pu les perturber fondamentalement, et ils ont raconté ça pour raconter le sabbat. Comment interpréter aujourd'hui les aveux des accusés et les fantasmes du juge qui les interroge ? Nicole Jacques Jacquin parle d'une fascination réciproque. Et là, une très belle analyse que je vous livre ici. Les aveux des femmes accusées entrent dans une intimité perverse avec le discours du juge par un effet de contamination réciproque. À l'orgueil professionnel du juge répond la fierté de la sorcière, refusant au bourreau le baiser du pardon, et à son plaisir d'entendre, le merveilleux plaisir de dire et de compter des accusés. Jouissance de l'oralité, d'une parole intarissable, raffinant sur les détails espérés, provocatrice. Mais il s'agit aussi d'une parole suicidaire, puisqu'elle confirme le juge dans ses angoisses et, par le danger même de séduction, d'envoûtement qu'elle recèle, le fortifiera dans son désir de la mort de l'autre. C'est terrifiant. On fait dire exactement ce qu'on veut entendre, mais voilà le résultat. Les sabbats ont-ils réellement existé ? Sinon, sur quelle base repose l'imaginaire de ce rituel ? François Borde. Les archives contiennent des textes à l'encontre des mascarades, et particulièrement des mascarades nocturnes, qui nous donnent comme un avant-goût de la grande mascarade sabbatique. Moment fort de la vie sociale, la fête représente également un exutoire cyclique, une sorte d'exorcisme face à un monde rempli de menaces. Les modèles essentiels utilisés par les accusés, obligés sous la pression du procès de trouver des détails à donner au juge sur la prétendue assemblée du sabbat, et les cherchant tout naturellement dans leurs propres expériences, semblent bien être les foires et les danses carnavalesques, manifestations collectives particulièrement riches au labour. Alors, dernier point, pourquoi cette page d'histoire sinistre que je vous ai présentée là est-elle devenue si floue pour nous aujourd'hui, au point de la distordre complètement, d'inventer des histoires plus sordides les unes que les autres, et d'accuser Pierre Delancre de choses qu'il n'a pas commises, et inversement, de ne pas comprendre ce qu'il a fait réellement. Je pense qu'il s'agit à la fois d'amnésie et d'acculturation. Il n'est pas innocent que, dès l'année qui a suivi les procès de Pierre Delancre, arrive en Pays Basque le père Coton, l'aumônier du roi, avec une cohorte de jésuites qui s'installe à Saint-Jean-de-Luz pour, écoutez bien l'expression, convertir les Basques. On estime qu'ils ne sont pas chrétiens. Ça ne marche pas, les jésuites remontent à Paris, le père Coton récidive en revenant cette fois avec des récollets. Et c'est là qu'ils fondent donc le monastère des récollets. Donc, en développant le sentiment de culpabilité, on pense oublier cette histoire-là. Et ça va aller très loin, puisque Achoulard, curé de Sarre, au moment des procès, n'a pas un mot dans ses écrits, lui, le grand écrivain basque, pour dire quoi que ce soit sur la sorcellerie. Ni en bien, ni en mal. Achoulard. Le père Socaros également, l'abbé Moreau, XXe siècle, dans son livre « L'âme basque », règle la question en deux lignes. Il ne faut pas parler des procès de sorcellerie. Voilà. Alors, vous savez très bien qu'en cachant les choses, on ne fait qu'empirer. Des explications. Il y a aussi l'ignorance des réalités locales et celle du contexte européen également. J'espère vous avoir convaincu par la nécessité de voir les choses largement. Quand on parle de l'Inquisition en Pays Basque à cette époque-là, c'est faux, bien entendu. Ce n'est pas l'Inquisition, c'est un tribunal civil. Mais également, quand on parle de la torture, on se réfère à des images qui sont nées essentiellement au XIXe siècle, à l'époque romantique. Et donc vous voyez qu'il y aurait toute une éducation à faire pour comprendre ces procès autrement. Et puis il y a également, il ne faut pas s'en cacher, une récupération honteuse, idéologique, essentiellement et folklorique, des événements. Je vous donne un exemple, à partir de Sugar Amourdi. Pendant des années, jusqu'en 2005, je crois, se déroulait à Sugaramurdi un espèce de happening, une espèce de grande fête qui rassemblait jusqu'à 50 000 personnes venant de toute l'Espagne et du sud-ouest de la France pour faire une fête en l'honneur des sorcières. Une véritable orgie dans laquelle alcool, drogue, ainsi de suite, étaient à profusion en l'honneur des sorcières. Au bout d'un moment, quand même, il y a des gens à Sugaramurdi qui ont décidé de réfléchir autrement, de se dire si on veut honorer la mémoire des gens qui sont morts à Sugaramurdi, on peut faire autre chose. Et c'est peut-être là qu'a germé l'idée de faire un petit musée que je vous invite à aller voir, très bien fait, sur l'Inquisition à Logroño, à Sugaramurdi, avec tout ce que j'ai fait moi pour ici, pour le labour, toute l'explication de la société de l'époque, la mythologie, les rites, les croyances, mais également les mentalités, et puis les états d'âme de Salazar y Frias, qui emporte l'Inquisition vers une révision de tous ses procès. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors pour conclure définitivement, vous comprenez pourquoi j'ai eu horreur, des cris d'horreur, quand il s'agit de comparer ça à Halloween. Hein? Je vais... Donc, pour terminer, je donne la parole à celle du début, la petite sorcière. Au petit matin, ce n'est pas le bourreau qui est entré dans ma cellule, mais un groupe de femmes qui m'ont embrassé en disant « N'aie pas peur, c'est fini ». Les hommes sont revenus de Terre-Neuve cette nuit et ils ont chassé le juge. Alors, je suis retourné sur la plage où j'aime tant jouer avec les vagues. J'y ai retrouvé mon ami. Tout heureux de me savoir libre, il m'a prise dans ses bras. Alors là, pour de bon, je me suis senti ensorcelé.
Les procès de sorcellerie de 1609, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de Claude Labatte, membre de l'association Laouburu. Conférence enregistrée le 8 novembre 2013 au Musée Basque de Bayonne, dans le cadre de l'Université du Temps Libre.